blanche.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la seconde partie du 40 nuances de Denis Ladguéry, fondateur et dirigeant de Believe. Donc pour ceux qui ont écouté la première partie hier, vous n'avez pas eu à attendre trop longtemps. Pour ceux qui arrivent seulement sur cette partie 2, je vous recommande vivement la première partie. Tout de suite, l'homme derrière l'entreprise.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Donc là, on est passé dans la rubrique de la plus personnelle de qui te concerne, toi, Denis, l'entrepreneur, mais aussi l'humain. Et donc, tu passes sur le banc de la psychanalyse.
Ferme les yeux.
Donc, on se détend.
Avec le jingle, je suis exactement sur une plage exotique.
Ça peut être ça aussi. Enfin, en tout cas, voilà. C'est un moment relaxant, mais l'idée aussi, c'est une question qui nous taraude hein, systématiquement. C'est de dire, bah voilà, quand on est aux manettes, enfin, quelque sorte, d'un aussi gros succès, et bravo pour ça, que Believe, bah, qui est l'homme qui est derrière. Et comment est-ce que finalement, tu vois, tu retrouves un petit peu ton équilibre au sein de tout ça? Parce qu'on imagine, tu as parlé de 17 ans, hein, on parle de 2005-2022. Donc c'est beaucoup de sacrifices, j'imagine. Alors, qu'en est-il du coup de la vie familiale et du reste de l'équilibre? Parfois, les Anglais disent le work-life balance, l'équilibre travail-vie. Comment ça se passe?
Écoute, ça se passe bien.
Et bien. Écoute, ça suffit comme réponse. Hein.
Voilà, non. C'était la fin de la partie 2. On a pris beaucoup de temps sur la première.
Ouais, exactement. Ça résume. Non, écoute, ça se passe bien. Tu vois, j'ai créé Believe en 2005. Et puis, dans les 17 ans qui sont passés, j'ai eu la chance de trouver une femme merveilleuse et d'avoir deux enfants avec elle, avec lesquels on est très heureux. Donc, ça demande, je dirais, moi personnellement, je pourrais pas faire autrement. J'arriverais pas à avoir j'ai besoin d'être équilibré pour pouvoir avancer. Et donc, je dirais, il y a des choses que tu contrôles et tu contrôles pas. Moi, j'essaie de faire attention. Je bosse quand j'ai pas le choix. Je bosse très très peu les week-ends. Quand je rentre chez moi le soir, je bosse pas. Je passe du temps avec.
Là, tu parles d'aujourd'hui, au lancement d'une aventure, c'est pas toujours le cas.
Alors en fait, au lancement, je dirais. Les 3-4 premières années, alors je dirais, en fait, il y a des moments où tu le contrôles et il y a des moments où tu ne le contrôles pas. Les 3-4 premières années, c'est 24-7. C'est-à-dire, en fait, tu te réveilles, tu penses Believe, tu vas te coucher, tu penses Believe, et puis tu rêves Believe.
Si je dis ça, c'est parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui, des fois, se disent, mais attends, ils ont réussi, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait de sacrifice, qu'ils ne sont jamais pris les pieds dans le tapis, et en fait, si, enfin, aussi.
On est là pour dire la vérité.
Ouais, absolument. Mais au début, en fait, alors, tu vois, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, je dis, c'est c'est ce que je dis toujours à tout le monde, c'est moi, j'adore ce que je fais. Tu vois, je t'entendais décrire au début, tu me disais, je disais, ouais, mais si tu essaies de me convaincre que le métier que je fais est merveilleux, il y a pas de, j'aurais rien à te répondre de différent, si tu veux. Donc, en fait, quand ce que tu fais et un truc que tu passionnes, quand je bosse pour Believe, j'ai pas l'impression de bosser, quoi. Je m'amuse, je passe du temps avec des anges, je vais dans
c'est des rencontres intellectuellement,
c'est des rencontres,
ça doit être
exactement, tu vois. Alors on vient de faire un séminaire stratégique, il y avait une petite quarantaine de personnes avec nos patrons de pays qui venaient de partout à travers le monde. C'est génial, c'est ultra enrichissant, etc. Donc si tu veux. Et pour moi, mon conseil à n'importe quel entrepreneur, c'est t'as des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, t'as des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs, et il faut le savoir, et il faut que tu t'amuses, parce que si tu t'amuses pas, c'est que t'es pas au bon endroit. Et après, t'as des périodes faciles et t'as des périodes difficiles. Moi, quand on a créé Believe, les deux premières années et demie, je me suis pas servi de salaire. Donc, en fait, j'ai puisé dans mes économies pendant 2 ans et demi pour être capable de vivre pendant la phase de lancement. Et puis, tu vois, pour dire la réalité, c'est on a créé la boîte en janvier 2005. On était ultra fiers. On a réalisé notre premier chiffre d'affaires avec une opération pour la fête de la musique avec Virgin Mega en juin 2005. 2005, tu vois, on avait bossé 5 mois et cette opération-là nous a royalement rapporté 30 euros, tu vois. Donc, et tu déploies et puis la première
année... 3 mois d'abonnement sur...
c'est ça, exactement. Donc, tu te dis, et puis après le temps passe, tu dis, ok, c'est maintenant je fais 100 000 euros, 200 000, 300 000, mais il se passe pendant les premières années un certain nombre de moments où tu te dis, mais en fait, est-ce que ça s'accélère bien au bon rythme? Alors, tu vois, moi, j'étais pas trop inquiet, parce que je me disais, j'aime ce que je fais et l'expérience est tellement intéressante que de toute façon j'aurais appris énormément de choses, donc même si j'échoue, la valeur de l'apprentissage est phénoménale, mais au début t'as beaucoup de risques et après je te dirais, faut arriver, il y a des périodes où tu contrôles et tu contrôles pas, il y a des moments où tu pars en vacances et puis t'as une levée de fonds à closer, t'es en plein mois d'août, nous on a une maison à Osgore dans le sud-ouest et t'es avec ta femme, tes enfants et il faut que tu passes la moitié de ta journée à faire des conf calls et t'es ni avec les investisseurs à l'autre bout du téléphone parce que t'as pas du tout envie d'y être, t'as déjà bossé
ça, ouais,
comme un malade, ouais, pendant toute l'année et puis t'es pas avec tes enfants et mais alors t'essaies de le gérer mais parfois tu peux pas et donc ouais t'as des sacrifices à faire.
Alors justement sur ces sacrifices, des fois c'est des sacrifices personnels, amicaux. Comment on, plutôt dans les yeux des proches, comment c'est perçu ?
Écoute, c'est, je pense que...
Il y a eu des reproches, je vais le dire autrement. Il y a eu des reproches.
Écoute, tu as... T'as pas de reproche de tes gens proches. C'est-à-dire, moi, j'ai pas eu de, en fait, les gens, ils comprennent. Et ils te disent de temps en temps, ta femme qui me dit, non, mais Denis, là, t'es à la table à dîner, t'es pas chez Biv, donc en fait, reviens sur terre. Tu l'as. Mais c'est, mais je dirais, non, t'as une, enfin, moi, j'ai la chance d'avoir une compréhension, assez forte sur ce sujet-là. Donc, non. Pas de sujet de tension. C'est vraiment, je dirais, c'est là où la tension vient. Pour moi, elle vient, enfin, dans mon cas, elle vient de moi-même. C'est-à-dire, non, mais là, en fait, je suis en train de penser un truc où je devrais pas faire et j'arrive pas à m'en extraire pour être là où je devrais être.
Dans l'instant
présent, exactement. Mais je dirais, ça se détache. L'autre truc, moi, j'ai trouvé ultra difficile, tu vois, c'est. Et après, je dirais, t'as une vraie différence, c'est-à-dire que moi je prends vraiment l'image que j'aime bien, c'est la roue du hamster, tu vois une boîte, c'est la roue du hamster, t'es le hamster dans ta roue, et pour commencer à la faire tourner, ça te demande vachement d'efforts. Mais après, quand elle commence à tourner, t'as l'inertie et ça s'exerce, ça demande moins d'efforts. Et tu vois, et quand t'as une boîte qui est comme Believe, qu'on a gérée pour être profitable quasiment tout le temps, pour jamais être dépendant de levée de fonds, etc., ça à un moment, ça te donne un certain confort, si tu veux. Là où moi j'ai trouvé que c'était très dur, c'était où j'avais pas vécu ça depuis longtemps, c'était dans le cadre de l'IPO, dans le cadre de l'introduction en bourse. Parce que si tu veux, on avait fait des levées de fonds avant, mais quand tu fais des levées de fonds, t'as une relative certitude, tu commences à discuter avec 10 fonds et puis tu gères un process. À la fin, t'en as 2-3, ouais. Tu te mets d'accord, tu sais que sauf à ce que le monde s'effondre, il y a peu de chances que ton deal se fasse pas. Quand tu fais une IPO, c'est vachement différent parce que t'es dépendant des marchés et en fait, tu sais pas si les marchés vont être ouverts ou pas et s'ils sont fermés, tu sais pas quand ils pourront revenir et que t'as commencé à anticiper sur un certain nombre de deals d'acquisition et que si tu lèves pas tes 300 millions, tu pourras pas les faire. Et t'as des choses que t'aimerais bien faire dans ton développement mais que tu pourras pas forcément faire. Donc ça c'est des périodes-là.
Et pas avoir la main, c'est...
Tu vois, c'est ultra stressant. Et tu vois, pendant... entre janvier 2021 et juin 2021, je me suis réveillé à 4h du mat tous les jours. Je me couchais à minuit, si tu veux. Et je me réveillais pas parce que le réveil sonnait. Je me réveillais parce que j'avais le cerveau qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour maximiser les chances, etc. Donc,
Parce que là, on parle un peu de business, mais je voudrais ramener les choses à toi, Denis. Mais du coup, ça me fait penser à qu'il serait intéressant de si tu es, on peut en parler. C'est un peu aussi ton rapport à l'argent, parce que c'est quelque chose qui intéresse aussi souvent notre public et notre audience. Hein, on parle des entrepreneurs, donc il y a cette notion au départ, on se sacrifie. Tu l'as dit, hein, 2 ans sans salaire, et puis quand il y a une IPO, quand il y a des centaines de millions d'euros qui sont investis, on imagine le succès aussi personnel sur le plan patrimonial, etc. Alors, est-ce que c'est
T'as pas fait de cash out, je crois.
Alors, j'ai pas fait de cash out à l'IPO, j'en avais fait un peu avant, en fait.
Mais aujourd'hui, une fois que tu es coté en bourse, tu as le droit de revendre des actions. Enfin, j'imagine qu'après, c'est très encadré hein, en termes d'informations financières, parce que si un des fondateurs ou le dirigeant d'une entreprise vend, évidemment, ça doit être annoncé, signalé, pour pas qu'il y ait de problème dans la communication financière qui est régulée sur les marchés boursiers. Mais est-ce que, pour toi, c'est quelque chose qui est un marqueur important, l'argent? Est-ce que c'était aussi une revanche que tu voulais prendre? Alors, très souvent, les entrepreneurs nous disent, pas tout le temps, mais de temps en temps, ils nous disent, mais non, vraiment, j'avais une mission, une vision, voilà, c'est autour de la musique, la passion, etc. Bon, malgré tout, l'argent, c'est quand même aussi une marque du succès économique d'une entreprise. Alors, quelle est ta relation avec ça? Est-ce qu'elle est décomplexée? Est-ce qu'elle est...
Écoute, moi, mon driver, c'est le plaisir. Enfin, c'est le plaisir de faire quelque chose que j'aime. Donc, dans le cas de Believe, c'est exactement comme tu le dis, c'était pas la musique, tu vois, c'était pas une passion pour la musique. J'avais fait de la musique, j'ai fait le conservatoire quand on était petit, j'aime la musique, mais c'est pas un truc que j'ai, tu vois, qui est que je qualifierais d'une passion. Moi, ce que j'avais envie, c'était d'être maître de mon destin et d'avoir une aventure entrepreneuriale. Tu vois, c'était vraiment la clé. C'était de voir des équipes se développer, de voir comment c'était, etc. L'argent, là-dedans, pour moi, tu vois, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que, tu vois, et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'argent, c'est juste une mesure, pour moi, de la taille de ce que t'as accompli. En fait, la valo d'une boîte, c'est la mesure de ce que t'as accompli, la taille de ton influence et de ton impact sur ton écosystème. À titre perso, tu vois, moi, ma vision, l'argent que j'ai aujourd'hui, il est théorique, il est dans Believe, et je le vois pas du tout comme un élément patrimonial. Tu vois, on a un appartement à Paris, on a une maison dans le sud-ouest, et ça me suffit très bien, j'ai pas besoin d'un jet privé, je viens au bureau en vélo, et je suis très heureux comme ça, et j'ai pas besoin de plus que ça, si tu veux. Donc moi, la réflexion là-dessus, c'est plutôt de dire, dans les années à venir, cet argent, comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir le donner, le distribuer, en faire profiter la communauté, plutôt que... Enfin, j'ai pas du tout... C'est pas un élément pour moi important dans mon fonctionnement.
Tu disais, mon driver, c'est le plaisir. Du coup, qu'est-ce qui procure le plaisir?
Écoute, la chose qui me procure le plus de plaisir, pour moi, c'est vraiment les échanges et les... C'est deux choses, je dirais. C'est les échanges et les engagements humains. Tu vois, tous les jours avec les équipes, de voir, tu vois, t'as un stagiaire, on a Romain Baker qui est notre patron de la distribution en France, avec plusieurs centaines de personnes. Il a commencé comme stagiaire chez nous il y a 10 ans. Tu vois, donc en fait, c'est de voir, et c'est un exemple, il y en a d'autres, en fait, c'est de voir ces histoires de développement, d'accompagnement personnel des équipes, de créer, ce que j'ai envie, c'est de créer un environnement pour que les gens puissent venir passer, avoir un temps de leur vie dans lequel ils apprennent, ils contribuent, tu vois, à quelque chose qui est du sens. Donc je dirais, ça c'est mon premier driver. Et le deuxième driver, il est plutôt intellectuel, c'est-à-dire, en fait, tu vois, tous les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, ce sont des sujets passionnants, tu vois, des sujets, c'est...
C'est pour ça qu'on fait traîner cette interview, parce qu'on est bien, là.
Tu vois, c'est la liberté d'expression. C'est un sujet, tu vois. Par exemple, pour Believe, pour moi, une des choses qui est, et pour la boîte auquel j'ai très, très à cœur, c'est la parité, l'égalité homme-femme.
Eh bien, je te coupe parce qu'on a quelqu'un qui a une question pour toi sur ce sujet.
Vous avez un message.
Bonjour Denis, c'est Isabelle Andrès. Alors, ma question pour toi. Sous ton impulsion, Believe est très engagé sur les sujets de gender equality et je vois de nombreuses actions qui ont été mises en place depuis que j'ai rejoint la société il y a 3 ans. Donc j'aimerais te demander s'il y a eu un élément déclencheur de cet engagement, et si oui lequel, et quels sont les bénéfices que tu retires au quotidien de cet équilibre homme-femme que tu as su installer chez Believe. Voilà, merci.
L'élément déclencheur, le pourquoi?
écoute, il n'y a pas d'éléments déclencheurs sur lesquels je me dis tiens, c'est ça qui a fait le clic. Je pense que ça a été une maturité. Il n'y a pas un moment où je me suis dit ça a accéléré. Il y a eu inconsciemment peut-être, tu vois, le fait de moi j'ai deux enfants, une fille, un garçon, et quand ma fille a commencé à grandir, le fait de me dire non mais en fait je veux qu'elle puisse bosser dans un environnement. Quand et tu commençais à entendre toutes les horreurs, MeToo, etc. Et je me suis dit, non, mais en fait, là, c'est devenu plus fort où je me suis dit, non, mais j'ai envie qu'elle puisse vivre dans un environnement qui soit un environnement sain, etc. Donc, je dirais, t'as eu ça. T'as un autre élément qui était que quand je travaillais chez Vivendi, à l'époque, ma boss chez Vivendi s'appelle Sandrine Dufour, qui était et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris, accompagné, et où à l'époque je me suis dit tiens c'est tellement agréable, et on avait un environnement qui était assez équilibré. Je me suis dit tiens c'est tellement agréable de travailler dans des environnements mixtes, c'est un vrai enrichissement. Donc je pense que il y avait des graines comme ça
qui ont été semées
au fur et à mesure du parcours, qui fait que je me suis dit tiens c'est un élément qui est vraiment important. Et tu vois, et très souvent je suis dans des salles où je vais compter le nombre de gens ou le nombre de femmes, le nombre d'hommes dans des réunions. Et très souvent, je vais me faire la réflexion en me disant « Waouh, c'est tellement enrichissant d'avoir un dialogue. » Tu vois, c'est au quotidien, là où je dirais, je le vis, c'est, ouais, c'est quand tu es dans des réunions, tu as des échanges, où tu as des points de vue différents, homme-femme, et là où tu te dis, bah ouais, en fait, ça, je l'aurais pas si j'avais un COMEX avec 90% ou 80% d'hommes.
Qui sont pas liés qu'au genre, d'ailleurs, cette diversité d'opinions, de pensées.
Exactement, qui sont liés au profil, qui sont liés au parcours, ouais. Exactement. Donc je pense que ça a été un des éléments qui a aidé. Donc si tu veux, ça, c'est ces éléments-là, c'est pour ça que c'est important.
Dans le monde de la musique, les femmes gagnent moins que les hommes, ou finalement c'est pas le sujet? Et est-ce que dans les contrats, il y a une différence aussi selon qu'on est une homme ou une femme? Alors chez Billy, mais peut-être plus largement dans ce
monde-là. Et est-ce que la question est taboue?
Alors écoute, là, en toute franchise, je sais pas. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est que ouais, je crois que t'as encore. Il me semble avoir vu une ou deux études qui disaient que t'avais encore des écarts de salaire. Nous, c'est un sujet qu'on regarde chez Believe depuis.
Je parle pas en interne pour le coup. Je parle 5-6 ans. Chez les artistes. Ouais.
Alors et chez les artistes, non. Dans les contrats, en fait, tu n'as pas de. C'est une bonne question. On n'a jamais fait d'études, mais j'ai envie de dire, a priori, t'as pas de raison. Qui est de différence de rémunération. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est aujourd'hui, on a fait des études il n'y a pas très longtemps. Tu vois, on a regardé par exemple sur TuneCore quel était le ratio d'artistes féminines masculines. Il y a un an et demi, on avait un ratio, c'était 25-75.
À peu près comme dans l'entrepreneuriat. Hein. Enfin, c'est ouf.
Trois quarts d'hommes, donc un quart de femmes. Donc on a fait des efforts sur le sujet. On a progressé, là, cette année, on était à 32% de femmes et t'as des boîtes comme Spotify qui ont mis en place des dispositifs de promotion qui s'appellent Equal pour faire la promotion d'artistes féminines. Donc t'as un vrai... Ou la réalité, la réponse à la question, c'est oui, t'as encore un gros, gros écart à faire.
Mais sur ce ratio 75-25 plutôt d'hommes, alors là, du coup, je le découvre et ça me semble étonnant parce que tu faisais le parallèle, Thomas, avec le milieu de la tech.
À peu près, mais...
Et là, on sait qu'il y a un biais culturel qui est lié aussi à la sélection par les écoles d'ingénieurs. Enfin, il y a tout
études,
un biais
sûr.
Culturel par les études, les prépas, etc. Alors que dans la musique, on pourrait imaginer qu'on est sur un terrain plus vierge. Donc, est-ce qu'il y a une explication culturelle? Est-ce que c'est lié à la confiance en soi? Est-ce que c'est lié, tu vois, enfin, plus globalement,
oser
à la place de la femme dans la société, quoi, dans ce cas-là?
Et prendre la parole, ouais.
Ouais, alors. C'est exactement les questions qu'on s'est posées. Alors, t'as pas d'études approfondies qui ont été faites sur le sujet. Où est-ce que c'est, en fait, t'as moins d'artistes féminines parce qu'en réalité, comme t'avais de l'encadrement masculin essentiellement dans les maisons de disques, finalement, les artistes qui étaient promus étaient essentiellement des artistes masculins et ça a découragé des artistes féminines et qui est le résultat d'aujourd'hui. J'ai rien lu sur le sujet. Qui est véritablement donné des explications. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que, mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu vois depuis un an et demi ou deux ans, quand tu mets en place des actions proactives, pour aller faire plus de promotion d'artistes féminines, tu vois plus d'artistes féminines, en fait. Donc, mon intuition, c'est que là-dessus, c'est, les deux sont clairement liés.
Et plus il y en aura, plus il y aura de rôles modèles, plus il y aura de jeunes femmes qui iront aussi.
Exactement. Donc, ouais, je pense que on vient d'un milieu qui était relativement machiste et qu'il faut ouvrir progressivement.
S'inspirer. Respirer.
Alors que c'est vrai qu'on arrive dans une rubrique qui est la notion d'inspiration, parce qu'on cherche à faire aussi, hein, avec 40 nuances de Next, c'est justement à inspirer la jeune génération, ou moins jeune, enfin aussi à devenir entrepreneur. Donc c'est intéressant aussi de comprendre où est-ce qu'un entrepreneur qui a autant de succès que toi continue à trouver de l'inspiration. Alors,
et où est-ce qu'il l'a trouvé, où est-ce qu'il l'a trouvé aussi avant de se lancer?
Oui, parce que d'autant plus qu'effectivement, quand on s'adresse à des entrepreneurs qui sont dans la fintech, on peut dire que peut-être la fintech n'est pas forcément l'inspiration du quotidien et qu'il y a des ressorts et qu'on peut aller chercher ailleurs. Alors que toi, tu es déjà dans un milieu dont finalement l'inspiration est un des ressorts. Mais est-ce qu'il y a quand même d'autres sources d'inspiration en dehors de la musique? Qui sont éventuellement, tu vois, des choses qui vont faire que, on parlait tout à l'heure de l'équilibre, mais on parle aussi de qu'est-ce qui fait que l'oxygénation du cerveau, de celui de l'entrepreneur, hein, qui est toujours à 100 à l'heure, en train de regarder son cours de bourse, en train d'avoir à gérer des recrutements, des expansions internationales, etc. Et comment est-ce que tu fais pour parfois en sortir, par de la lecture ou par d'autres aspects, qui sont peut-être le sport ou d'autres encore?
Ouais, écoute, en fait, il faut la première des choses, c'est être capable de se détacher. Tu vois, quand au début, juste avant de commencer à bosser pour VND, j'avais un copain, j'habitais à New York, j'étais avocat à l'époque, et j'avais un copain qui m'avait dit, il bossait chez McKinsey à l'époque, et puis il avait démissionné du jour au lendemain, et c'était 99, donc tu vois, la grande phase de développement des startups. Je dis, mais t'es malade, on habite à New York, ça coûte ultra cher, pourquoi tu démissionnes de chez McKinsey, t'avais un job en or, etc. Et il me dit, non, mais en fait, j'avais envie d'aller bosser dans une start-up et si je ne démissionne pas, je n'aurai pas l'esprit libre pour être capable de réfléchir bien, sereinement aux opportunités. Et ça, c'est un conseil que moi, je donne toujours à tout le monde dans les phases de transition, d'être capable de se déconnecter complètement pour être capable de penser de manière complètement ouverte. Et tu vois, l'été, quand je suis en vacances, je bosse pas du tout. Donc, je vais aller voir des expos, je vais faire du kitesurf, je vais lire des romans policiers, etc. Et de manière à déconnecter complètement. Et ça, je pense que, tu vois, dans la phase de création de Biv, après avoir justement
partir de chez Universal,
il y a 4 mois pendant lesquels je savais pas ce que j'allais faire, 4-5 mois pendant lesquels j'avais eu un accident de kitesurf à l'époque,
quoi,
exactement,
ouais.
et sur lesquels j'avais dit, en fait je suis à la recherche de ce que je vais faire après, je sais pas. Et là, ce que tu vois, ce qui est génial, c'est que c'est l'univers qui vient à toi, les gens qui viennent, qui te disent tiens, j'ai telle ou telle idée, tu vois. Et j'ai bossé, j'avais rencontré à l'époque Philippe Legendre, qui était le chef 3 étoiles du Georges V, qui réfléchissait à monter un resto gastronomique en haut de la tour à Rungis, avec comment il s'appelle, Jean-Claude Darmon de Sports 5, qui réfléchissait à privatiser la Ligue 1, racheter des clubs de foot pour privatiser la Ligue 1, si tu veux, de football. Donc,
c'est drôle,
j'avais des trucs vachement différents.
À quoi s'est joué l'avenir de milliers d'artistes, hein?
Parce qu'en fait, si tu veux, dans tous ces projets-là sur lesquels j'ai bossé un peu, plus ou moins, et je me disais toujours, non, mais en fait, il y a un truc qui me manque parce que je veux un truc digital, j'ai appris pas mal de choses quand même dans ce milieu-là, j'aimais bien et j'avais envie. Donc l'univers m'a envoyé Arnaud à l'époque, le bon signal au bon moment pour y arriver. Mais faire ça, ouais, c'est-à-dire, c'est à un moment, c'est ouvrir complètement, c'est super important.
Tout à l'heure, on a parlé de tes associés fondateurs, ils sont plus là?
Ils sont, Arnaud est plus là et Nicolas est toujours là.
Ok, du coup, je me permets une question, mais tu as le droit de pas y répondre, mais à un moment, se quitter entre associés, ça, c'est des sujets qui heurtent, ou pas d'ailleurs, mais ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de l'entrepreneur. Et alors du coup, ça permet encore une fois de refaire un lien entre l'entrepreneur et l'entreprise, mais comment on gère ça?
Écoute, c'est un des sujets les plus difficiles. Où moi, mon conseil, c'est ça reste, t'as les deux cas. Je dirais, c'est ne jamais monter une boîte avec des amis, tu vois, ou faire bosser des amis, parce que en fait, tu vois, moi j'ai eu le cas, j'ai un très bon copain que j'ai fait venir il y a quelques années comme directeur des opérations, qui s'appelle Eric Landouzi, on est très très bons amis, et quand tu dis, en fait, je suis arrivé au stade où il faut que maintenant j'aille recruter, je suis à un autre stade de développement, je suis une boîte publique, et mon besoin est peut-être différent de celui que j'avais il y a 3-4 ans, c'est jamais des conversations qui sont toujours des conversations qui sont difficiles à avoir, même quand tu essaies de pas mettre une dimension émotionnelle dedans, donc c'est toujours difficile. Avec Arnaud, la séparation qu'on a eue en tant qu'associé, où moi je vais racheter ses parts en plus de 2000, 3 ou 4 ans après avoir la création de la boîte, c'est aussi difficile, ouais. C'était parce que, mais il y a un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut que tu sois identifié, est-ce que tu es fait pour être entrepreneur ou pas être entrepreneur, et jusqu'où tu peux aller. Et en fait, quand tu es une boîte qui scale, tu vois, on a commencé à deux autour d'une table avec Arnaud, et après à trois, tu montes à 20 personnes, à 25, à 30, à 50, à 100, etc., à 1500. Et en fait, ce sont des étapes qui sont extrêmement difficiles.
C'est plus la même posture.
C'est plus la même posture. Et tu peux te sentir très bien dans une boîte de 20 ou 30 ou 45, 50 personnes où tu es valorisé parce que tu es cofondateur de la boîte, tu as une importance forte. Mais quand la boîte est passée à 200 personnes et que ton rôle, en fait, et que toi, tu n'as pas évolué avec la boîte, ça peut être difficile à vivre. Donc je dirais, ça c'est l'aspect, effectivement, c'est un aspect qui est un aspect parmi les plus compliqués à gérer et sur lesquels on n'est pas préparé du tout. C'est-à-dire, ouais. Sur lesquels de dire, en fait, finalement, c'est rien d'autre que la vie normale d'une entreprise. Mais comme tu as une relation émotionnelle, comme tu as une relation amicale avec quelqu'un, naturellement ça rend les choses beaucoup plus difficiles, ouais, à gérer. Et on te dit pas du tout quand tu crées une boîte, non, mais en fait la réalité c'est que dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans 5 ans, ils auront pas monté aussi vite que le job ou le poste, et il faudra qu'ils restent là ou il faudra que les repositionner.
Je voyais Olivier réagir, mais je voulais juste poursuivre là-dessus sur toi. Est-ce qu'à un moment tu te dit que ce sera peut-être un stade d'évolution de la boîte, plus une boîte à la taille de ce que tu peux lui apporter.
Ouais, mais je me pose la question aussi, en disant, en fait, t'es obligé de te la poser pour les autres, pour le bien de la boîte, et t'es obligé de te la poser pour toi-même. Tu vois, la question, moi, ce que je dis toujours aux équipes dans ce type de situation, c'est, en fait, il y a deux axes de réflexion. L'axe de réflexion numéro un, c'est la loyauté par rapport à l'organisation. Ce qui prime, c'est l'organisation. T'as monté une boîte ou t'es manager pour une boîte, qu'est-ce qui est bon pour la boîte? Est-ce que c'est le bon manager au bon endroit? Parce que si c'est pas le bon manager au bon endroit ou le bon key executive au bon endroit, tu crées du risque pour la boîte. Et donc, c'est pas bon pour la boîte. Et après, la deuxième loyauté, c'est la loyauté au manager. C'est-à-dire qu'en fait, t'as quelqu'un qui t'a accompagné pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui est plus au bon endroit, au bon moment. Est-ce qu'il y a un autre endroit pour lui à l'intérieur ou pas? Et s'il n'y en a pas, comment est-ce que tu arrêtes une relation de la manière la plus juste et loyale possible, parce qu'il y a quelqu'un qui a été associé à ton succès pendant une période, et il faut le reconnaître. Mais moi je me suis posé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, la question de te dire, en fait, ouais, est-ce que je suis le bon CEO pour la boîte, qu'est-ce qui me manque, est-ce qu'il ne faudrait pas que je dissocie les fonctions de chairman ou de CEO, donc ouais, tu es obligé de te poser les questions pour toi-même régulièrement.
Ça m'amène à la question de la posture, et c'est une question en plus qu'Olivier aime bien souvent poser. Mais aujourd'hui, ton taf quotidien, c'est quoi? Ça consiste en quoi?
Écoute, il n'est pas encore exactement là où il voudrait que je sois. J'espère qu'il va y arriver bientôt. Je dirais, il y a... Il y a une phrase que j'aime bien qui est pour moi vraiment un de mes motos. C'est une phrase de Tim Cook qui est en fait, quand on lui demande mais comment tu réfléchis au business, il dit people, strategy, execution dans cet ordre. Et en fait, si tu veux, moi mon boulot, c'est, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que la manière dont je fais mon travail tous les jours, c'est de dire en fait, est-ce que j'ai les bonnes équipes aux bons endroits, que ce soit dans les pays ou ici à Paris, est-ce que j'ai la bonne stratégie sur les différents business et est-ce que j'ai le bon rythme d'exécution. Aujourd'hui, je fais un peu plus d'exécution que ce que je devrais faire. Tu vois, je pense que c'est vraisemblablement le défaut de pas mal d'entrepreneurs, mais que je suis en train de résoudre, pour vraiment concentrer sur les modèles, les équipes. Comment en fait tu crées la culture, les conditions de est-ce que tu as les bonnes top équipes, est-ce que tu as la bonne culture, est-ce que tu as le bon modèle de développement de tes ressources, et ensuite est-ce que tu as la bonne stratégie. Ce sont les sujets sur lesquels je veux concentrer aujourd'hui 80% de mon temps.
Parce que tu as aussi un périmètre très international aujourd'hui. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu avais envie? Alors, tu as dit que tu avais vécu à New York, etc. Et tu as fait aussi, je crois que tu as fait une business school. Hein, je crois que tu as fait le SCP. Enfin, donc, tu as ouais. En quelque sorte un parcours quand même plutôt lié au monde de l'entreprise et plus qu'au monde de la musique d'une certaine manière. Donc, tu as en quelque sorte les expertises probablement au départ, théoriques en tous les cas, et puis tu les as mises en pratique. Mais est-ce qu'il y a des sujets comme ça, comme notamment l'international? Parce que c'est arrivé dans certaines startups, hein, où il y a eu des changements parfois entre les fondateurs, ou parfois on a recruté, ou les investisseurs, parfois on dit, bah non, là maintenant pour passer au cran d'après, il va falloir recruter quelqu'un d'autre. Parfois ça se passe bien, hein, parce que justement, c'est une question que posait tout à l'heure Thomas, on admet aussi ses limites, et ça ne veut pas dire qu'on part de l'entreprise, mais qu'on élargit le cercle de gouvernance. Oh. Donc, c'est des questions que tu t'es posées au moment de l'international, ou est-ce que toi tu étais tout à fait à l'aise avec ce truc?
Non, l'international, moi, c'était une des choses qui m'amusait assez fortement. Donc, en fait, ça, je l'ai pris directement et je dirige encore une grosse partie des pays ou des patrons des régions à l'international. D'accord. Tu vois, parce que, et c'était un des éléments qui avait beaucoup de sens, parce que, comme si tu veux, tout le monde entier va dans la même direction, mais il n'est pas au même point dans le cycle. En fait, le fait d'être capable d'aider tes patrons de pays ou de région à comprendre en leur disant « En fait, vous êtes là et ce qui va vous arriver l'année prochaine, c'est ça. » Parce que tu l'as déjà vu se jouer ailleurs dans d'autres pays, ça a beaucoup de valeur.
C'est
en
une
fait,
manière de prendre le pouls voilà. aussi.
Et puis c'est aussi, tu as un deuxième élément qui est très important, surtout à 1500 personnes avec 50 pays, c'est tu veux t'assurer que les gens dans les pays ont la bonne culture de boîte. Tu vois, pour nous, la culture est un élément fondamental, c'est le respect, l'équité, la transparence, à la fois en interne, en externe, sont des éléments qui sont absolument fondamentaux dans la constitution des relations de confiance avec nos artistes, avec nos collaborateurs. Et donc, tu veux pouvoir t'assurer que ton leadership local à bien intégrer ces éléments de valeur, qui comprend comment est-ce qu'ils se déclinent de manière très pratique dans
très opérationnel,
très opérationnel.
Ce qu'on veut et ce qu'on n'accepte pas.
Exactement. Comment tu signes des contrats avec des artistes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pas?
Qu'est-ce qui se fait pas, par exemple? Qu'est-ce qui est niette chez Believe par rapport à peut-être d'autres?
Tu vois, par exemple, un exemple, c'est t'as des pays comme l'Inde ou le Moyen-Orient sur lesquels le marché de la musique s'est structuré sur ce qu'on appelle des contrats de buy-out. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un artiste qui produit un titre, tu vas le voir, tu lui fais un chèque, tu lui donnes de l'argent et tu rachètes les droits. Et l'artiste n'a plus aucun droit. Donc, tu es propriétaire de 100% ouais. du droit. Tu en fais ce que tu veux. Tu peux le synchroniser avec les marques. Enfin, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ça, nous, c'est toujours quelque chose qu'on a considéré comme non, on n'ira pas. On n'ira pas parce qu'en
ça,
fait...
C'est la French Touch qui fait ça.
C'est la French Touch.
Tout le rapport au droit d'auteur qu'on peut avoir en France ou en Europe qui fait...
C'est, non, je dirais, c'est vraiment le modèle où nous, on veut construire un modèle qui soit, en fait, quand t'es dans un monde digital, t'es des artistes qui sont aussi plus entrepreneurs. Ils doivent, peut-être que c'est ça, ils doivent aussi être maîtres de leur destin, si tu veux. Et donc, tu dois faire des contrats qui soient dans lesquels ils co-construisent avec toi leur succès, si tu veux. Et économiquement, si on rachetait des droits, ce serait économiquement, si tu veux, ultra intéressant. Mais on veut pas le faire parce que c'est à l'inverse des valeurs qu'on veut porter.
Je vois encore une fois, mais décidément, ça va être ça pour chaque partie. Alors, on va accélérer un petit peu. On a une question de Romain. Tu nous dirais qui est Romain ?
Vous avez un message.
Bonjour Denis. Travaillant à tes côtés depuis bientôt 14 ans, je connais bien ton rythme de travail qui est très élevé. Ma question pour toi aujourd'hui est donc de savoir comment tu arrives à concilier et équilibrer ta vie personnelle avec ta vie professionnelle.
Romain Villien, qui est notre directeur général de Believe en France et qui est responsable du succès fantastique qu'on a ici. En fait, Romain, je pense que la raison pour laquelle il me pose la question, c'est, je pense qu'il a l'impression que j'ai un rythme de travail ultra élevé, parce que comme ça m'arrive d'avoir des insomnies, j'envoie parfois des emails à 3h ou 4h du matin, mais comme je fais pas ça régulièrement, en fait, c'est une impression qui est assez fausse. Mais non, l'équilibre pour moi, enfin, en dehors des insomnies et d'envoyer des emails, globalement, j'arrive à assez bien compartimentaliser
les week-ends sont sacrés,
ce que j'ai fait, et c'est assez marrant, je pense que Romain doit être beaucoup plus sollicité que moi là-dessus, étant en relation directe avec les artistes qu'il appelle, qu'il sollicite pour avoir ses conseils beaucoup plus fortement que moi. Je pense, une des choses que j'ai fait qui m'a pas mal aidé, c'est j'ai désactivé toutes les notifications sur mes ordinateurs, mes téléphones, y compris les SMS. Donc
ça change un homme, ça.
Exactement, ça doit faire 6 ou 7 ans que j'ai fait ça, et c'est ça aide énormément.
Très rapidement, on enchaîne. On fait du tac au tac, si tu le veux bien. Premier renoncement.
Je pense pas qu'il y ait eu de renoncement fondamental.
Premier coup de culot.
Premier coup de culot en 2012. Apple est venu nous voir, en fait, a fait un audit de l'ensemble de ses partenaires. Ils sont venus nous voir sans nous dire pourquoi. Et puis, ils sont revenus nous voir au mois d'octobre et ils nous ont dit, voilà, on va lancer dans 53 nouveaux pays. On ne va signer aucun artiste dans aucun des pays locaux. Donc, on va vous recommander parmi une des 3 boîtes qu'on va recommander aux labels et aux artistes locaux dans tous ces pays. Est-ce que vous êtes capable de vous déployer, de le faire, de soutenir technologiquement des artistes en alphabet cyrillique, dans l'ensemble des langues,
mais bien sûr,
absolument, on est capable de le faire. On a enfermé l'intégralité des équipes de développeurs pendant 2 mois pour être capable de développer les systèmes. On a en 15 jours recruté des patrons de zone dans les 3 zones, et puis on a déployé.
Alors, premier tube sur lequel tu as embrassé une fille.
Premier tube sur lequel j'ai embrassé une
fille. On demande pas quelle fille, hein, le tube.
C'était Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
Ben justement, on a cette première fille qui est
une question surprise.
Premier coup de gueule.
Je pense que alors c'est pas du tout mon caractère d'avoir des coups de gueule, donc
tu peux dire que c'était le dernier aussi, du coup.
Voilà, c'était le dernier aussi. Non, ça a été dans les discussions de séparation avec Arnaud à l'époque. Ça avait été quand une de nos personnalités respectives, ça a été assez compliqué.
Première erreur,
c'est difficile, en fait. T'en as tellement des erreurs, en fait, t'en fais tellement en permanence. Je dirais globalement, plutôt que de pointer une erreur, la manière dont je résumais, c'est ne pas être allé assez vite, assez fort. S'il y a une erreur que j'ai, c'est celle-là. C'est pas avoir levé plus d'argent plus tôt pour déployer plus vite.
Parce que le marché l'aurait permis.
Parce que le marché l'aurait permis, ouais, exactement. Donc je dirais, c'est après, tu fais des erreurs tout le temps. Il y a des acquisitions que tu fais pas, que tu aurais dû faire. Il y a des développements que tu aurais dû faire. Tu vois, aux États-Unis, on aurait dû y aller beaucoup plus tôt. T'en fais tout le temps des erreurs.
La vie d'un entrepreneur.
Ouais, mais c'est un exercice assez intéressant à faire, de te dire, en fait, de revenir en arrière et de dire où est-ce que j'ai fait des... En fait, si je regarde, il y a 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment, et si je l'avais fait, où est-ce que j'en serais aujourd'hui. C'est une question assez intéressante à se poser, parce que ça offre aussi une perspective sur où est-ce que je suis maintenant et comment j'évite de faire des erreurs pour l'avenir.
Wow.
Alors, on vient de parler des erreurs. Est-ce que tu es prêt à... On a déjà parlé de quelques-unes, mais est-ce qu'il y a une claque que tu accepterais de partager avec nos auditeurs? Tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, la vie d'entrepreneur est effectivement parsemée d'embûches et qu'il faut avoir perdu beaucoup avant de gagner. Enfin, je ne parle pas d'argent, mais d'avoir connu des défaites, comme dans le sport.
Les claques de vie en fait Believe en fait c'est un peu la création de Believe c'est un peu à la suite d'une claque de vie qui est que tu vois, à l'époque juste avant de créer Believe je bossais aux États-Unis et je finissais ma mission pour Vivendi juste avant de rentrer en fait je savais pas ce que j'allais faire à l'époque si j'allais rester aux US, j'hésitais ou revenir. Et je faisais du kitesurf et j'ai eu un accident de kitesurf. Je suis tombé à plat sur le dos. Et puis...
La moitié paralysée.
Sur le lendemain, je me suis retrouvé à l'hôpital et mon médecin m'a dit « Vous avez 90% de chance de vous retrouver tétraplégique. Donc, il faut qu'on vous opère tout de suite, etc. » Et ce qui fait que je suis rentré en France après. Et là, tu te dis « Est-ce que j'ai fait les bons choix ?» Et tu te dis ton choix immédiat, c'est je vais rentrer, je vais voir ma famille, je vais voir mes amis, je vais passer du temps. Et c'est ça qui m'a ramené en Europe à l'époque. Je trouve j'hésitais vraiment entre rester aux US et revenir. Et ce qui aboutit après à la rencontre avec Arnaud, avec Nicolas pour monter le business. Donc
quand on a frôlé l'immobilité, il y a cette soif de mouvement.
Après tu te dis Alléluia, c'est une vraie bénédiction. Et
j'ai l'impression que chaque jour maintenant est plutôt
c'est ça,
un répit ou du bonheur.
Exactement.
On vit chaque jour comme le dernier.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Alors j'accélère, il n'y a plus de transition entre les rubriques, mais c'est le moment de la carte blanche de Denis. Le sujet de ton choix, l'exposé de troisième en sciences nat qui n'était pas passé à la postérité, mais c'est le moment de la découvrabilité.
Carte blanche musique pour revenir sur les sujets de découverte. En fait, tu vois, ce que je vois depuis 15, 16, 17 ans, c'est que la réalité, c'est que pour la musique, et je pense pour beaucoup de choses, le paysage, en fait, quelle est la culture d'un pays, quelle est la musique que tu écoutes, c'est fondamentalement, ça n'est pas ton choix d'auditeur, c'est ce que le média va te proposer. Et en fait, ce que tu vois, un des combats que nous, on a aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on sorte du monde de la musique des 70 dernières années. Le monde de la musique des 70 dernières années, c'est du contenu anglo-saxon produit aux États-Unis, en Angleterre, qui est 60% du marché mondial de la musique et qui est poussé à l'intégralité des pays du monde. C'est ça le monde de la musique, avec un peu de production locale en France.
Proche du cinéma.
Exactement, proche du cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde digital. Et paradoxalement, quand tu regardes la consommation aux États-Unis, la consommation américaine, ce sont essentiellement des Américains qui écoutent des artistes américains. Et donc, en fait, avec très très peu d'importations sur leur propre marché d'artistes locaux. Donc en fait, nous, un de nos combats, c'est de faire en sorte que dans un monde où ta capacité de faire la recommandation avec de l'algorithme est beaucoup plus forte qu'avant, avec beaucoup plus de diversité, c'est de faire en sorte que dans les 10 ou 15 prochaines années, on redonne de la puissance à l'ensemble des marchés locaux. Alors, sur certains marchés comme la France, sur le top, tu es déjà sur des artistes locaux, mais dès que tu descends, en fait, de faire en sorte que tu aies l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes en France, en Allemagne, en Italie, partout ailleurs, qui soient des artistes locaux. C'est vraiment ça, pour moi, le sujet, et c'est un sujet sur lequel on pousse énormément, sur notamment... Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers une transparence des algorithmes de recommandation partout à travers le monde. Ça, c'est un de nos sujets clés qui permettent de voir...
Oui, une part de zéro algorithme pour vraiment laisser la découvrabilité complète. Ou de l'aléatoire, non?
Ouais, non, non, moi je pense qu'il faut, tu vois, il faut avoir une vraie, il faut avoir une vraie approche sur ce sujet dans tous les pays qui est, je veux pouvoir pousser. Évidemment, je veux être ouvert culturellement à, parce que l'ouverture culturelle enrichit ma propre culture, mais je dois avoir un paysage culturel dans lequel, qui est d'abord orienté pour favoriser mon écosystème local, et ce dans tous les pays du monde.
Tu veux pousser la découvrabilité des artistes locaux partout à l'international. Tu veux, je crois, comme nous, pousser des femmes entrepreneurs à entreprendre encore un peu plus à travers des rôles modèles. On t'a demandé une femme entrepreneur que tu admires et qu'on aura le plaisir de recevoir. Alors, peut-être pas nous, mais notre associée Solène qui lui tendra le micro. C'est le moment de l'assista.
Voilà, 40 nuances de Sista, c'est le podcast frère de 40 nuances de Next. Et comme il n'y a pas assez d'entrepreneuses au sein des startupeuses, comme il n'y a pas assez d'artistes féminines, comme tu le disais tout à l'heure, eh bien, c'est l'invitation qu'on te fait d'en mettre une sous les projecteurs, en tout cas le micro du podcast 40 nuances de Sista.
Et on ira aussi, des projecteurs.
On ira aussi lui poser une question en ton nom à travers le micro de Solène.
Alors, c'est Nathalie Pirochaud qui est la directrice générale de IRCAM Amplify. Alors, IRCAM, je ne sais pas si vous connaissez, IRCAM, c'est le plus grand institut au monde d'études de la musique et du son. Et qui est un institut qui mélange, c'est à peu près 150 doctorants en mathématiques et d'artistes qui travaillent sur toutes les technologies du son. C'est très similaire à
ça va plaire à Raphaël, notre sound designer là.
C'est très similaire à ce qu'avait fait Fraunhofer en Allemagne, qui a inventé le format MP3. En fait, IRCAM travaille sur toutes ces technologies. Je sais pas si vous avez vu récemment l'émission de Thierry Ardisson avec Dalida, où en fait il s'asseyait avec Dalida et on entendait, il interviewait Dalida comme s'il était interviewé aujourd'hui, on entendait la voix de Dalida avec la voix de Dalida qui répondait à Ardisson. Et donc en fait l'IRCAM était derrière notamment la voix et il travaille sur le son. Et donc nous on a investi, l'IRCAM a décidé de créer une société de commercialisation de ces technologies et on parle de technologies qui sont en avance d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années en prospective. Et en fait, c'est Nathalie qui, depuis quelques années, a la responsabilité d'aller orienter en fait ces 150 chercheurs vers des solutions commercialisées et qui fait un travail remarquable.
Eh ben merci à l'IRCAM de nous avoir prêté la voix de Denis pendant près de 2 heures. C'est pour ça qu'on a réussi à lui mobiliser autant de temps. Juste une question que tu aimerais lui poser, qu'on lui posera en ton nom.
À Nathalie, quand est-ce que tu penses, Nathalie, que les technologies seront suffisamment évoluées pour aller faire le doublage de Joule en italien?
Très bonne question.
Denis, un immense merci à toi pour ton temps, la qualité des échanges et le zéro bullshit encore une fois. C'est toujours un plaisir d'avoir des échanges si directs.
C'était Denis Ladegaillerie et merci beaucoup d'avoir joué le jeu de la transparence dans un marché enthousiasmant comme celui de la musique.
Merci, merci Olivier, merci Thomas, merci à toutes et à tous.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.